Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. La semaine dernière, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qui a interpellé la presse congolaise et formulé une série de recommandations dont le plus important est de privilégier l'information officielle en toute responsabilité. Pendant cette période de crise sanitaire, mais aussi économique, les médias et les médecins jouent un rôle important. Ainsi, les journalistes notamment devront livrer les informations réelles et sourcées sur l'évolution de cette maladie. Que doivent faire les organes de régulation, UNPC et CESAC, pour contraindre les journalistes au sens des responsabilités? Vous pouvez partager cette émission ensemble avec nous en composant les 081 890 63 30 ou encore en nous appelant directement au 09 96 07 49. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Vous êtes plus de 8000 à avoir été touchés par ces sujets et 1500, vous l'avez commenté et 300, vous l'avez partagé. Merci, une fois encore. Près de 54 commentaires vont dans le sens de pouvoir dire qu'il y a la responsabilité de journalistes dans la gestion de cette pandémie en RDC. Nous avons invité pour parler de cette question Kasunga Chilunde, qui est le président de l'UNPC, et d'autres journalistes vont devoir nous rejoindre pour échanger de manière citoyenne. À tous et à toutes, bienvenue.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Kasunga Chilunde, vous êtes avec nous en ligne, bonjour.
Bonjour.
Alors, en tant que professionnel des médias, comment jugez-vous le niveau de communication mis en place, en tout cas dans la gestion de Covid-19 par les autorités?
Je constate malheureusement que jusque-là, il y a beaucoup trop de confusion. La communication n'est pas bonne. Et ceux qui donnent l'information, apparemment, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils doivent dire à la presse. Conséquence, parfois, on constate une sorte d'hésitation, une sorte de... Eux-mêmes qui donnent l'information ne la maîtrisent pas. Donc, ça se répercute automatiquement sur le journaliste qui doit traiter cette...
Voilà, on a des petits...
Oui?
Oui, vous êtes en ligne, parce que là, il y a des micro-coupures.
Non, je suis en ligne.
Oui, alors, quand vous parlez des confusions, à qui incombe aujourd'hui cette confusion enregistrée ou encore de malentendus, ça et là, à travers le pays, depuis le début de la déclaration de la maladie à coronavirus? Est-ce qu'à l'État congolais ou encore à nous, journalistes, parce que ça relève quand même de notre responsabilité également?
La confusion incombe à celui qui a l'information. Et dans le cas d'espèce qui a l'information... C'est le gouvernement à travers sa fameuse commission de riposte. Donc s'il ne donne pas suffisamment d'informations et correctement et à temps, il complique le journaliste dans sa mission de traiter l'information avant de la diffuser.
Alors, vous en tant que professionnel, quelles sont les faiblesses que vous avez pu déceler dans ces dispositifs de communication?
Le faiblesse que j'ai décelé, c'est que vous allez, par exemple, il y a des journalistes qui sont directement attachés à l'un des membres de, je ne sais pas comment on appelle la structure, de la riposte. Il a son information qui n'est peut-être pas celle officielle à diffuser. Et c'est là, quand il veut diffuser cette information, l'information officielle qui arrive contredit celle-là. Mmh. Ça pose un problème. Et c'est lui-même qui a l'information officielle. Il est lourd dans le rendu de cette information. Mmh. Et c'est quand ça pousse à des interprétations parce qu'il y a certains mots avalés. Mmh. Et le journaliste se trouve dans une position où il l'interprète à sa manière et donne l'information qu'il estime être disponible et qui lui vient de la riposte.
Oui, mais parce que l'équipe de la Riposte est attachée directement à la présidence de la République. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce travail devait être fait, en tout cas de manière professionnelle, par l'équipe de communication de la présidence de la République?
Normalement, oui. C'est-à-dire que on ne doit pas dissocier l'équipe de communication du président de la République avec la Riposte. D'autant que la Riposte est directement rattachée au président de la République. Mieux, demander à la profession de donner des communicateurs que nous avons, des journalistes qui sont outillés à la matière pour donner l'information de la manière la plus professionnelle possible. Sinon, on va continuer à le regretter et on n'aura pas de suite.
Donc, en quoi vos propos, rien n'est à capitaliser dans les dispositifs de communication mis en place jusqu'à ces jours?
Non, capitaliser, non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été données et il y a même des corrections qui ont été apportées dans l'information qui a été donnée. Et je crois qu'au fur et à mesure que les jours passent, on essaye d'améliorer ce qui est fait. Et tant mieux pour la Riposte, tant mieux pour l'information que nous devons donner à notre peuple pour que elle sache aussi s'impliquer dans la gestion de ce virus, quoi.
Et à ce moment, est-ce qu'il y a une attitude particulière que doit tenir normalement les journalistes dans la gestion de cette crise?
Le journaliste, que ça soit dans la gestion de cette crise, que ça soit dans sa manière quotidienne de traiter l'information, le journaliste doit avoir un seul principe. Le principe, c'est le code de déontologie. C'est les règles du traitement de l'information. Vous avez l'information, d'abord, l'information, vous devez l'avoir de la source officielle. Quand vous en avez de la source privée, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à la confronter à une source pour que elle identifie si l'information est vraie ou fausse. À partir de ce moment-là, vous aurez fait votre travail de journaliste responsable, vous avez traité l'information, et puis vous allez la diffuser. À ce moment-là, elle ne pose aucun problème, elle n'est nullement controversée. Donc, ce sont des règles de base que le journaliste doit disposer dans le traitement de l'information en s'appuyant sur le code de déontologie du journaliste.
Oui, ben on a remarqué que beaucoup de journalistes sont tombés dans les sensationnels et pratiquement des informations non vérifiées ont été balancées sur les différentes plateformes sociales ou des réseaux sociaux. Et cela a créé même de tollés et même des échanges musclés entre certains journalistes qui, au fait, se sont rentrés des dents. Cette attitude-là, quel est le message que vous, en tant que numéro 1 de l'UMPC, que vous lancez aux journalistes pendant cette période?
Je lance un message solennel aux journalistes congolais dans le traitement de cette pandémie. C'est de chercher l'information à la source, quitte à la commenter après. Les journalistes ne doivent pas se rentrer dedans. Ils n'ont aucune raison de le faire. Parce que l'information, ils l'ont de la même source, parce qu'aujourd'hui, la source d'information sur la pandémie COVID, c'est la commission de Riposte. Et la commission doit donner l'information. Et si un journaliste a une information qu'il a obtenue ailleurs, avant de la diffuser, il doit appeler la Riposte pour que la Riposte lui dise si cette information est vraie ou fausse. S'il ne le fait pas, il viole la déontologie et il peut être sanctionné en fonction de cela.
Est-ce que c'est important, pendant cette période, l'encadrement des journalistes par l'UNPC ou les CESAC ou encore d'autres organes?
Est-ce important?
Est-ce que c'est important aujourd'hui que l'UNPC ou les CESAC puissent organiser des formations pour des journalistes?
Bien sûr. La formation du journaliste, nous le faisons, c'est d'une manière permanente et régulière. Même si ces jours-ci, c'est peut-être les moyens qui manquent. Et ensuite, avec tous ces confinements, il est difficile qu'on puisse se déployer pour... la vie est pratiquement arrêtée. Mais normalement, il nous faut une mise à niveau à tout moment et surtout avoir un langage scientifique, avoir un langage qui s'adapte au contexte actuel dans lequel nous vivons. Parce que si le journaliste n'est pas remis en capacité, il risque, comme nous disons en sport, moi je suis sportif, au basket on met le panier et l'autre va dire non, il a marqué un but.
Voilà. Alors on va poursuivre cette émission. Nous vous gardons en ligne, Monsieur Kasonga Tshilunde, président de l'UNPC. Le temps d'accueillir d'autres compatriotes qui vont participer à ces débats sur les rôles des journalistes et les dispositifs de communication dans la gestion de la pandémie en RDC. Quelles sont les faiblesses et quels sont les points forts jusqu'à ces niveaux 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Il y a un confrère qui nous a rejoint, Israël Moutala. Vous êtes à Kinshasa. Vous êtes le président des médias en ligne. Bonjour.
Bonjour, JR.
Et comment jugez-vous les niveaux de communication, en tout cas en RDC, dans la gestion des Covid-19?
Bon, je pense que la gestion de cette crise et les messages qui nous sont délivrés sont parfois contradictoires. On voit clairement que il n'y a pas une politique communicationnelle bien définie par rapport à cette crise. Donc on doit être en principe en communication de crise, et il y a des axes bien définis dans une communication de crise. Mais tout ça me semble ne pas avoir été bien défini. Et ensuite, je pense que le question originale vient du ministre de la Santé, avec les premiers balbutiements sur l'identité du premier cas de Covid-19. Et donc, je pense que dès lors qu'il y a eu cette attaque, et après on ne s'est pas rattrapé, la communication était totalement confuse. Et à un moment, elle a été menée à éclater à trois niveaux. Au niveau de la présidence avec la task force, à un autre niveau avec le secrétariat technique. Mais tout ça me semble confus. Je pense qu'en période de crise comme celle-ci, la communication doit être très très bien définie et surtout mettre en avant la personne qui portera la responsabilité de la gestion de cette crise. Donc je pense qu'ici, il faut clairement responsabiliser le ministre de la Santé, parce que c'est lui qui a la responsabilité justement de notre santé publique. C'est à lui justement qui incombera la responsabilité de la gestion de cette crise.
Alors, dans la gestion de cette crise, quelle est la responsabilité des journalistes?
Bon, la responsabilité de notre responsabilité, bon, d'abord je ne sais pas, quand vous avez parlé tout à l'heure des gens qui sont rentrés dedans, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Les journalistes que moi je représente, d'une manière générale et de manière particulière, les médias en ligne, on a fait notre travail sans attendre quoi que ce soit. Donc, notre travail, c'est de donner la bonne information. Et notre travail de citoyen, c'est de sensibiliser, parce que la pandémie ne fera pas la différence entre un journaliste et un non-journaliste. Donc, on a intérêt à ce que cette pandémie soit stoppée le plus rapidement possible, qu'elle fasse moins de victimes en observant les gestes barrières. Et donc, pour les médias en ligne que nous sommes, on n'a pas attendu quoi que ce soit. Voilà, on a commencé tout de suite la sensibilisation, on a commencé tout de suite à donner la bonne information. Et vous verrez sur la plupart des portails en ligne, que ce soit 7 sur 7, actualité.
Voilà, Israël. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne d'Israël. Et tant peut-être que la réalisation puisse nous aider à récupérer Israël. On va prendre François Kabasele qui est à Lubumbashi. François, vous êtes avec nous, bonjour. François Kabasele, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Kabasele également, qui nous a appelé des Lubumbashi. Alors, il les a également écrit en disant que les organes de régulation ont tout intérêt à encadrer les journalistes et organes des presses, afin que ces derniers ne puissent pas être dupés par des infox et intox, car en ce moment, les gens font circuler des rumeurs sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas bien. Le cas des figures, prenons la déclaration du docteur Muyembe sur la candidature de la RDC sur les essais clinique du vaccin contre les Covid-19. Les gens s'acharnent et pourtant c'est une démarche scientifique normale. Les médias ont commencé dans un sens tout comme dans l'autre, et cela peut avoir des répercussions sur la manière que la population peut avoir sur ces vaccins. Alors nous, en tant que scientifiques, nous allons faire tout pour éclairer donc l'opinion de l'autre côté. Ça, c'est le message de François Kabasele qui l'a déposé donc sur notre page Facebook. Et héritier, voilà, donc on m'a fait signe j'imagine que Israël est en ligne. Merci à Héritier qui nous a également écrit depuis Kisangani. Et puis Eric à Kolozi. Israël, vous parlez de la responsabilité des médias et vous expliquez les travail qui est abattu du côté des médias en ligne.
Oui, justement. Moi, je disais qu'on n'a pas attendu un ministre, on n'a pas attendu une organisation pour nous lancer dans la sensibilisation et tout ça. Donc, en tant que président des médias numériques, on l'a fait de manière citoyenne, de manière consciencieuse et tout ça. Donc, notre responsabilité, d'abord, en temps normal, en tout temps, le problème, déjà, c'est de donner la bonne information, une information vérifiée et vérifiable. Mais on s'est buté, justement, aussi à l'opacité dans la gestion de cette crise. On s'est buté à un refus de certaines autorités à donner la bonne info. C'est ce qui a propagé la méfiance, c'est ce qui a propagé le scepticisme. Et donc, moi, je pense que pour une crise comme celle-ci, on doit clairement jouer la carte de la transparence. Mmh. Voilà. Donc il faut que le gouvernement nous dise, par exemple, voilà, pourquoi je ne donne pas l'identité de mes... Voilà, et s'expliquer clairement là-dessus. On a vu qu'au début, le ministre a commencé d'abord par faire des tweets. Et dans les tweets, il était très lapidaire. Or, quand vous commencez à faire des tweets comme ça, il faut se mettre à la disposition des gens pour que quand on vous pose les questions, vous y répondiez. Mais ce n'était pas le cas. Et donc, je pense que la communication a été catastrophique. Il y avait plusieurs messages contradictoires entre le ministre de la Santé, le secrétariat technique, la présidente de la République, le ministère de la Communication et des Médias. Bref, ça allait dans tous les sens. Donc je pense qu'il y a lieu à ce moment-ci d'avoir un axe de communication bien défini, un message bien élaboré, et ça va mettre au moins... Je pense que la confusion qu'il y a actuellement incombe justement aux responsables politiques qui n'ont pas fait leur job comme il se devait.
Est-ce que vous faites faire une petite comparaison avec la communication sous d'autres cieux, notamment dans des pays occidentaux ou encore au-delà de l'Atlantique, par rapport à nous autres? Est-ce qu'il faut prendre ça comme modèle?
Non, mais moi je pense que on peut s'inspirer des autres, mais sans tout prendre, parce qu'on a de contextes différents, voilà. Mais je pense que, voilà, en France, par exemple, il y a des points de presse précis, réguliers, qu'anime le Premier ministre avec à ses côtés...
le directeur de santé.
Ouais, c'est lui qui va au secrétaire général de la santé, mais il y a aussi le point de presse du secrétaire général de la santé, tout ça. Donc c'est des points de presse où on sait très bien, les gens posent des questions, où il y a un point de la situation qui est effectué. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement était désemparé parce que il n'était pas préparé à la crise, ou il s'y était très mal préparé, il avait un peu sous-estimé.
Mais aucun pays ne s'était préparé par rapport à cette crise, mais ils se sont adaptés à la crise.
Oui, c'est vrai, mais nous, on a eu quand même le temps de bien voir c'est que la crise, comment est-ce qu'elle venait déjà? On l'a vu déjà bien avant. C'est pas pour, voilà, nous, à 7 sur 7, par exemple, ou à d'autres médias, on avait déjà écrit que, voilà, pourquoi est-ce que on ne fermait pas les frontières? Pourquoi est-ce qu'il y avait plusieurs personnes qui nous avaient interpellé, qui ont écrit des tribunes, qui ont dit, voilà, pourquoi est-ce que Éthiopienne
qui continuait,
voilà, pourquoi on n'avait pas interdit tout ça? Donc voilà, il y avait tout ça. Mais par rapport à ça, le gouvernement, bien sûr, a pris des mesures, mais n'a pas dit pourquoi il les a prises aujourd'hui, il ne les avait pas prises avant. Il n'y a pas eu cette pédagogie, cette explication par rapport aux mesures prises. Voilà. Mais on est en pleine crise là-dessus aussi. Donc, je pense que...
Alors, pour, avant de vous libérer, nous avons vu l'Hôtel des Villes qui venait d'ailleurs d'annoncer les confinements partiels de Kinshasa, donc tout a commencé par la Gombe. Aujourd'hui, les journalistes sont-ils impliqués dans cette gestion ou dans cette phase de confinement partiel de la Gombe? Nous avons vu ce matin certains journalistes avec leur badge, les marcarons délivrés par l'Hôtel des Villes, disons, de n'être pas autorisés d'accéder à Gombe, par exemple.
Mais justement, c'est regrettable. Moi, je réitère encore mon soutien au président de l'UNPC, le président Kassonga Tshilombe, qui avait fait une démarche honorable en concertation avec l'hôtel de ville, qui avait disponibilisé des macarons pour permettre aux journalistes de couvrir cette crise. Parce que pour sensibiliser, pour atteindre un plus grand nombre, il faut passer par les médias, tous les médias. Et je pense que l'initiative du président Kassonga Tshilombe est à saluer. Si cette initiative a été sabotée par la suite, c'est vraiment regrettable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les policiers ne doivent pas exagérer, parce que j'ai vu certains journalistes qui ont dit ce matin qu'on leur a dit que ça a été, que les macarons ont été falsifiés. Mmh. Ils n'apportent aucune preuve, ils balancent ça comme ça, ils sont nerveux. Voilà, c'est lamentable. Dans tous les pays au monde, on a vu même en Chine, qui est un État quand même assez... plus ou moins autoritaire, on a laissé circuler les journalistes occidentaux et tout ça pour couvrir. Alors les journalistes doivent avoir un statut particulier parce qu'ils sont exposés. Et donc c'est à nous de voir si le confinement est respecté, où, quand, comment. Et tout ça, et rendre compte, et même aux autorités, pour qu'ils sachent qu'ils soient informés. Et donc moi je pense que c'est regrettable si la liberté d'aller et de venir et du journaliste en cette période ici est obstruée.
Voilà, donc je retiens que vous avez pu observer cette opacité dans la gestion de la crise et vous sollicitez qu'il y ait quand même transparence, qu'on laisse les journalistes accéder aux informations fiables.
Pardon, j'aimerais d'abord aussi quand même dire aussi une chose. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est important que les gens font la confusion entre médias en ligne, médias numériques
et les réseaux.
Non, c'est deux choses différentes. Mm-hmm. Donc, un média numérique, un média en ligne est différent d'un compte Twitter, d'un compte Facebook, d'un particulier, ou même d'un journaliste. Non, les médias que nous sommes, nous sommes des institutions avec des rédactions, avec des gens qui ont fait des études de journalisme. Voilà, avant qu'une information soit publiée, il y a toute une chaîne de traitement.
Tout à fait.
Et donc avant que ça soit mis sur la toile. Alors les gens font souvent au nom fake news avec médias. Non, c'est les réseaux sociaux. Mmh. Donc aujourd'hui, on ne va pas me dire que le compte Twitter de France 24 est moins fiable que France 24. Non, c'est le prolongement de France 24. Et donc nous, ici, nous avons pour support Internet et les réseaux sociaux. Il faut que les gens fassent un distinguo entre les choses. C'est que les médias numériques, les médias en ligne ne sont pas à confondre avec les réseaux sociaux. C'est vraiment différent. Sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de d'informations aussi loufoques que sérieuses. Alors, mmh. Ce n'est pas à confondre avec les institutions qui sont les médias en ligne ou les médias numériques.
Merci beaucoup, Israël Moutala, président des médias numériques, d'avoir appelé de Kinshasa. On poursuit avec vous, François. Vous êtes à Lubumbashi. François Kabasele, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Alors, François, tout à l'heure, j'ai lisé votre message posté sur notre page Facebook que vous avez demandé, dans ce message, vous demandez aux organes de régulation de pouvoir encadrer les journalistes.
Oui.
Voilà, décidément, on a des petits soucis avec la ligne de François. On revient à vous, Kasonga Chilunde. Et quelle est votre réaction après avoir écouté Israël?
Ma première réaction, c'est de lui dire merci pour cet honneur qu'il me fait. Et ensuite, c'est de déplorer le comportement de l'hôtel de ville. C'est dommage pour nos autorités. Je sais que dans le monde entier, un homme d'État a comme rôle de trouver des solutions dans les conflits qui se posent au sein de la société. Mais il n'a pas pour rôle de créer des conflits. Lorsqu'on a annoncé le confinement, l'UNPC Kinshasa, avec Jean-Marie Kassamba et l'UNPC national que je représente, nous avons pris langue avec l'hôtel de ville. L'hôtel de ville a proposé que nous installions le bureau à l'hôtel de ville, ils vont donner un local. Et puis finalement, ils disent non, ils n'ont pas d'argent pour fabriquer les macarons, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de fonctionnement, ils n'ont pas de rétrocession. La réponse n'a rien donné. Donc, UNPC, débrouillez-vous. Nous avons accepté le principe et ils nous ont dit, quand vous imprimez les macarons ou les badges, ramenez-les à l'hôtel de ville qu'on mette le cachet pour les valider. C'est ce que nous avons fait. On a imprimé le premier lot de macarons, on a amené à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville a mis le cachet cabinet du gouverneur. Nous les avons plastifiés et nous les avons distribués à nos membres. Et c'était dans l'ordre, on a travaillé pendant une semaine dans l'ordre et dans la discipline. Mmh. Mais quand on envoie le deuxième lot, il est bloqué. Oh non, l'agent qui doit estampiller est malade. Et puis après, samedi, j'apprends que non, l'hôtel de ville ne veut plus de ces macarons-là. Moi, je dis, mais ce sont ses propres macarons, ce ne sont pas des macarons universités, parce que c'est comment on appelle, l'hôtel de ville qui a mis son cachet. Et puis après, une dame là qui est chargée de la communication fait un communiqué qui m'a révolté. Et après, il me dit, non, président, on va aller en réunion. Après la réunion, je vais vous contacter. Après la réunion, au lieu de me contacter, il ferme le téléphone. Alors, vous comprenez que c'est lamentable.
Mais quand nous regardons déjà le budget proposé pour la riposte, 135 millions, nulle part, on a mentionné la rubrique communication. C'est déjà un problème.
Mais mon cher ami, mais vous vous rendez compte, Israël l'a dit tout à l'heure, nous faisons ce travail d'une manière bénévole. Prenez par exemple le cas d'Ebola. Mais Ebola, il y a eu beaucoup d'argent. Les médecins, les infirmiers, les épidémiologues, et même les agents, les virologues, ça en sont tirés avec beaucoup d'argent. Est-ce que vous pouvez me citer un seul journaliste qui a eu l'argent d'Ebola? Je n'en connais pas. La même situation que nous vivons ici avec...
Le coronavirus.
L'argent va venir. Mais ils vont se redistribuer entre eux et le journaliste doit faire le travail gratuitement à ses risques et périls. Et en dépit du fait, ils trouvent un malin plaisir à l'embêter pour faire le travail qui va leur profiter.
Oui, parce que les informations à notre possession, à certaines barrières, ce matin déjà, on a ravi les badges délivrés par l'UNPC. Et alors, disons, l'hôtel de ville a délivré d'autres badges où il n'y a même pas mention laissé passer presse.
Non, même... Je viens même d'apprendre qu'il y a même des journalistes qui sont arrêtés, qu'on a amenés au camp de Fungula. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Vous trouvez ça normal? Et si aujourd'hui nous prenons des mesures, nous disons, organisons-nous, défendons-nous, plus question de parler de...
De la pandémie. De d'accompagner la gestion...
On va dire que nous sommes des antipatriotes? Non, je pense qu'il faut qu'on nous respecte. Et on peut nous respecter que si nous nous respectons nous-mêmes.
Alors, le problème de...
que nous devons refuser.
Oui. Alors, Israël, tout à l'heure, a évoqué les tâtonnements, les balbutiements, au début, d'ailleurs, de la déclaration de cette maladie, un cas qui était suspect, d'ailleurs, en RDC. C'est ce qui a fait qu'il y a eu un effet domino. Jusqu'à maintenant, finalement, il y a cette confusion qui a du mal vraiment à nous quitter en termes de communication.
Je l'ai dit au départ, Israël a totalement raison. Il m'a rejoint. Hein? Parce que quand vous arrivez dans cette affaire-là, vous avez la communication du ministre, si c'est Teni ou Etende.
Oui, Etende.
Vous avez comment il s'appelle?
Etende Longondo.
Etende Longondo, voilà. Vous avez la communication du ministre Etienne Lekondo. Vous avez la communication du... Comment on appelle Muyembe. Vous avez la communication de notre membre du secrétariat technique. Alors, tout ça, ça fait quoi?
Et vous avez également la communication de la présidence de la République. Parce que nous avons vu dans le média en ligne quelqu'un qui a balancé une information disant qu'elle provenait de la présidence de la République et signée la responsable de la communication. Et la responsable a tout de suite réagi, toujours en média en ligne, pour rappeler les uns et les autres dans leur responsabilité, dans le traitement des informations.
Voilà. Et donc, je crois qu'il faut qu'ils prennent, nous avons encore beaucoup de jours avant, il faut qu'ils prennent tous ces tâtonnements, tout ça, pour mettre de l'ordre, arrêter la confusion. Il faut que le gouverneur de la ville de Kinshasa comprenne que tout ce que nous faisons, c'est dans son intérêt. C'est lui qui va en tirer profit, même sur le plan politique et sur le plan financier. Qu'il laisse les journalistes faire le travail comme il se doit, sur base de macarons, qui porte son propre cachet, qui laisse distraire les gens. Qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Nous gagnons rien, au contraire.
Nous allons sauver des vies humaines, parce que finalement, à chaque fois que quand on va communiquer, bien communiquer, en tout cas, on épargnera des fake news, et de quoi on va sauver quand même de la population. Nous vous gardons en ligne, monsieur Kasonga Chilunde, il est temps d'accueillir d'autres auditeurs qui nous ont également rejoints à ce niveau du débat. Mardoché est à Guadolite, Olivier Akikuit. Mardoché, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Et bonjour, Gérard, et bonjour aussi à l'invité.
Et quelle est votre contribution, Mardoché?
Oui, merci pour m'avoir accordé la chance d'intervenir aujourd'hui. Vous savez, Gérard, cette maladie ici, le Covid-19, nous a aussi un peu aidé. Parce que nous avons vu des autorités politico-administratives dans ce pays qui ne veulent même pas équiper les hôpitaux, construire des hôpitaux. Et aujourd'hui, avec cette maladie, ce sont beaucoup plus les autorités qui sont victimes. Mais le problème qui se pose aujourd'hui avec la communication, c'est quoi? Je n'arrive pas à comprendre. En commençant d'abord par le ministre, lorsqu'il nous donnait l'identité du premier cas confirmé, il parlait d'un sujet belge. À la fin de compte, il va encore nous dire que non, c'est un Congolais qui vient de la Belgique. Et ces mêmes confusions continuent pour aller jusqu'au niveau du Nord Kivu. là où l'INRB va coller le premier cas confirmé de COVID-19 à la province du Nord-Kivu. Or, ce n'était pas la province du Nord-Kivu qui est concernée. Avec tout cet entonnement-là, la population est en train de se sentir dérangée. Certaines vont même dire que non, ces gens-là sont en train de se moquer de nous. Donc, il n'y a pas le cas de maladie à COVID-19 dans notre pays. Mais les autorités sont en train de chercher des voies et moyens à chercher de l'argent. Donc, il n'y a pas vraiment de sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Je suis en train de voir les journalistes qui sont en train de poumonner, de donner des informations. Est-ce que la part des journalistes dans leur budget-là qu'ils sont en train d'élaborer, c'est combien? On ne peut pas faire travailler les gens pour rien. Il n'y a rien pour rien au monde. Il faut aussi encourager les journalistes. C'est très, très décourageant d'entendre ce que l'hôtel de ville de Kinshasa est en train de faire. Ça, c'est une manière de décourager les gens. Et comment les journalistes vont encore prendre le courage de nous informer? Parce que nous sommes en train d'avoir de vraies informations à travers les médias et non à travers nos autorités. Parce que nos autorités ont toujours l'habitude de cacher les choses, même s'il y a la vérité. Alors, ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que les journalistes prennent courage. Vraiment, nous sommes de cœur avec eux. Continuez ensemble. Et nous sommes en train de vous encourager, surtout avec aussi la Radio Okapi.
Voilà, déjà là, ce matin, il y a même certains journalistes de Radio Okapi et qui ont qui se sont vus, donc leur badge ravi. Donc c'est une situation qui est arrivée à pratiquement quasi totalité des journalistes qui détenaient les badges qui leur a été délivré par l'UNPC. Merci beaucoup, Mardoché. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour. Olivier, vous êtes avec nous à Kikwit. Oui, Olivier, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne d'Olivier. Le temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent aussi participer à ces débats sur le rôle, l'implication des médias dans la gestion de cette crise de Covid-19. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Héritier Ololo Fungi, depuis Kisangani, nous dit ceci. Prenons les cas de la France. Le directeur général de la santé communique chaque jour avec beaucoup plus de détails. Ce qui nous manque, la communication officielle est lente, voire irrégulière. Cette absence de la vraie information donne lieu aux rumeurs de tout genre. Le gouvernement devrait revoir son modèle de communication. Nous, par exemple, à Kisangani, plus de 2 semaines environ, la RTNC radio n'aimait pas. Difficile pour les Boyomés d'accéder aux nouvelles sur les Covid-19. Les chaînes locales ne font que jouer de la musique, passer des prédications, et n'ayant même pas trait à la catastrophe sanitaire à longueur des journées. Alors donc, j'estime que communiquer et bien communiquer nous épargnera des fake news. Le gouvernement est responsable de ce qui arrive, à mon avis. Eric Mwanda, depuis Kolwezi, dans la province de Lualaba, il est vrai que les informations fournies par les journalistes, reposent sur 2 volets. L'un est correct et l'autre est incorrect. Comment saurais-je dénicher la bonne et écarter la mauvaise, dès lors que les journalistes eux-mêmes a des penchants sur les plans politiques, et voilà que au finish l'information délivrée ne peut qu'être fausse. Merci beaucoup Eric d'avoir appelé depuis Kolwezi. Olivier, merci de revenir en ligne. Vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Oui, Gilles, bonjour. Bonjour à vous et à tous les invités.
Quelle est votre contribution, Olivier?
Oui, moi j'ai une vision, je ne sais pas comment la qualifier, au sujet de la recommandation du CESAC et de l'UNPC. Voilà, ce n'est pas normal. La recommandation, pour moi, je la considère comme une petite intimidation. Privilégier l'information officielle, je suis tout à fait d'accord. Mais voyez, Gilles, moi je suis à Kikwit, nous avons un cas à Idiofa. Et à la radio, on vous dit... un lot de matériel important a été envoyé dans le Kwilu. Mais moi, qu'est-ce qui va me rassurer? Un lot de matériel important. Et nous pensons que le journaliste doit nous dire, voilà, il y a 500 masques, il y a 40 000 tests, il y a ceci, il y a cela. Mais quand l'information officielle n'est pas complète ou n'est pas précise, je pense qu'il est du rôle du journaliste de chercher à voir celui qui a donné l'information et à la livrer... Mais c'est ça qu'on ne veut pas, justement. Alors, moi, je crois que l'UNPC et le CESAC s'occupent des journalistes en permanence. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que moi, l'encadrement. Non. Alors, il y a un autre problème. Lorsque vous dites l'information officielle. La population a besoin de voir que cette information est rassurante. Partout dans les autres pays, on cherche à rassurer la population que le travail se fait pour l'intérêt de la population. Chez nous, justement, la crainte vient de cela. Il n'y a pas d'information sur nous, la population, nous ne voyons pas sur le terrain. Moi, là où je suis, je ne vois rien sur le terrain qui peut me rassurer. Et donc, j'attends le journaliste pageux aille chercher l'information et vienne me dire, ici à Kikwit, voici ce qui peut vous rassurer. Mais tant qu'il n'y en aura pas, moi, je vais me contenter de l'information que j'aurai sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et donc, je crois qu'il n'est pas tout à fait normal qu'on dise aux journalistes de ne pas travailler comme il se doit. Parce que quel est le rôle du journaliste ? Tant qu'il fait une ouverture de la crise, mais le journaliste a le droit d'avoir un regard critique. Donc, c'est le journaliste qui doit nous dire, voilà, le gouvernement n'a pas fait assez, le gouvernement a dit... Donc, c'est ça, le regard critique, on ne doit pas supprimer le regard critique, et ça, ce n'est plus le journalisme. Donc, tant qu'il n'y a pas de critique, ce n'est plus le journalisme. Et les prêtres l'ont dit, l'information donnée par n'importe qui. Partout ailleurs, nous voyons qu'il y a des personnes attitrées. Et moi, je ne vois pas pourquoi notre ministre de la Santé doit reculer. Parce qu'on ne le sent pas, on ne le voit pas. Ce n'est pas... Et au niveau provincial, allez voir, les informations qui circulent au niveau provincial sont des informations parcellaires. On a l'impression qu'on cherche quelque chose, alors que nous, on a plutôt des... Donc, vraiment, j'insiste, l'information doit être rassurante pour la population, sinon ce n'est plus l'information. Et le regard critique, c'est ça le...
C'est important. Merci beaucoup, Olivier. Alors, Bathier, ingénieur Bathier, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Je dois d'abord saluer tous nos compatriotes qui nous suivent, surtout au Congo profond. Par rapport au sujet, monsieur le journaliste, c'est vraiment avec des regrets parce que nous vivons ici, nous voyons des choses qu'on ne s'attendait pas parce que nous, on savait que ce sont des journalistes qui sont en seconde position après les corps soignants. Ce sont les journalistes, en principe, qui devraient nous informer de toute situation. Malheureusement, ce que nous vivons, on peut dire que réel, on peut confirmer que les journalistes, quelque part, ils sont bloqués. Parce que jusque-là, monsieur les journalistes, nous voyons dans nos chaînes locaux ici, on nous dit que non, voilà, il y a le corona, il y a des morts, mais parfois, on nous balance plutôt les images de l'étranger, on nous balance les images de l'Italie, de la France. Or, la population voudrait voir vraiment que non, voilà, nous avons 18 cas. On voit les 18 cercueils que les gens sont décédés avec le corona. Et avec ça, ça peut nous faciliter, ça peut faciliter
et même aider la population à se faire une idée sur les centres d'isolement, de quarantaine. On a toujours parlé de ça à Kinkole ou ailleurs, mais personne n'a vu ça à la télé.
Affirmatif, mais c'est ça que nous réclamons. C'est ce que nous réclamons avec beaucoup de patience, monsieur le journaliste, parce que nous voulons voir, parce que si la population voyait les cercueils de 18 personnes, la population peut se rassurer réellement que non, voilà, il y a le corona. Lorsqu'on parle de 18 personnes pour toute la vie de Kinshasa, les gens disent que non, ce sont les gens qui sont décédés dans des morts normales. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement puisse chercher les moyens pour faire passer les informations et de communiquer à la population pour que la population puisse se rassurer que non, voilà, l'épidémie est là. Sinon, c'est le gouvernement lui-même avec son équipe qui est à la base d'intoxiquer la population que non, il n'y a pas le corona. Vous voyez un peu, monsieur le journaliste, nous voulons que les journalistes puissent avoir l'accès, même là, des morgues, dans des centres, qui puissent nous montrer réellement les cercueils des gens qui sont décédés, comme on voit en Italie ou en France ou partout dans le monde. Nous pensons que ça, les journalistes pourront nous donner vraiment des rassurances que non, voilà, il y a le corona. Moi, je pense qu'il faut qu'ils changent le système pour que la population puisse vraiment avoir l'accès à l'information. Sinon, c'est désolé, monsieur le journaliste, nous regrettons beaucoup parce que ici même dans la ville de Kinshasa, il y a des...
Donc la communication autour de cette maladie pose déjà problème. Merci beaucoup, ingénieur Bathier, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous recevons le président de l'UNPC Kinshasa également, qui nous a rejoint à ce niveau du débat. Jean-Marie Kassamba, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez, faire un commentaire sur la communication actuelle? Comment jugez-vous le niveau de communication autour de la gestion de cette crise?
Bon, d'abord, je salue tous nos compatriotes, à la fois de Kinshasa et de ceux qui se trouvent à travers le monde. Cette pandémie qui touche le monde entier, heureusement pour nous ici en Afrique, ça ne nous a pas encore trop traumatisés. Mais le traumatisme est déjà là. Nous devons faire d'abord un travail d'encadrement de la population, parce que cette maladie, elle est d'abord psychologique, psychanalytique, et ça touche plus l'angoisse de la population. Nous n'avons même pas 200 cas chez nous, mais la population est plus que traumatisée. Et donc, nous devons encadrer cette population, en commençant par la population de Kinshasa, qui est l'épicentre, et surtout que les officiels collaborent franchement avec les journalistes. Dès le début, nous avons tiré une sonnette d'alarme pour signifier que, au niveau de la riposte, au niveau du task force initié par le chef de l'État, au niveau de la ville de Kinshasa, il est impératif qu'il y ait un travail de collaboration entre l'UNPC qui encadre la presse, les services de communication à la fois du chef de l'État et de la ville, bien évidemment avec le ministre des médias qui est le ministère de tutelle. Mais jusque là, on constate un cafouillage qui dessert la population et nous sommes encore disponibles pour faire ce travail.
Alors, quel regard portez-vous sur cette initiative du gouvernement en mettant sur pied, en tout cas en place, une chaîne de télévision, Mines Santé TV, pour gérer cette crise?
Écoutez, l'abondance ne nuit pas, mais il faut se poser la question sur la pertinence de cette démarche. D'abord, nous avons un trop plein de médias ici en RDC, et notamment ici à Kinshasa. Mmh. Il faut savoir que la communication doit se faire via les masses médias, les médias qui atteignent le maximum des populations, mmh. et surtout avec des équipes préalablement formées, avec des supports accessibles qui permettent à la population d'avoir un langage beaucoup plus clair. Il n'en est pas de tel. Aujourd'hui, c'est que le ministre, et on peut le saluer, de la santé, essaie de faire, n'a rien à voir avec une stratégie offensive des communications qui puisse atteindre la population. Nous le disons encore une fois, le président de la République a décrété l'état d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? C'est la mobilisation de moyens exceptionnels pour s'attaquer à un problème qui se pose. Je dis bien la mobilisation de moyens exceptionnels. Pourquoi, bon sang, on n'arrive pas dans notre pays à faire appel aux spécialistes, chacun dans son domaine? Pourquoi on n'intègre pas les gens qui ont pignon sur rue? Où sont les leaders d'opinion qui sont mobilisés pour sensibiliser la population? Où sont les pasteurs? Chacun essaie de faire son cinéma dans son coin. Où sont les pasteurs qui sont des leaders d'opinion qui puissent converger, j'ai dit bien converger, avoir une synergie des communications pour permettre à l'opinion d'être rassurée? Parce que il y a beaucoup de gens qui meurent d'angoisse. Il y a des gens qui meurent par manque d'informations. Il y a des gens qui meurent parce que ils ne se sentent pas sécurisés. Ça n'a rien à voir avec la maladie elle-même. Mmh. Alors, nous profitons des antennes de Radio Okapi pour se dire que, y compris la commune de la Gombe qui est aujourd'hui confinée, il y a encore besoin de faire de la communication rassurante. Mmh. Aux États-Unis, en France, en Chine, partout, tout est communication d'abord. D'abord, nous avons beaucoup de déficits en matière technologique, en matière d'équipement, mmh. en matière de médicaments. Tout ce qui peut nous rester à faire, c'est de la communication. Moi, je suis le président des journalistes ici à Kinshasa. Je peux le dire, je ne suis associé à aucune organisation de riposte.
Mais la dernière collaboration, Jean-Marie Kassamba, l'Hôtel de Ville, vous avez associé à une discussion et qui avait donné lieu à ces badges que vous avez pu imprimer et distribuer aux différents journalistes. À ce jour, ces badges sont pratiquement rejetés et ils n'ont pas été acceptés par l'Hôtel de Ville qui a, lui, imprimé d'autres badges.
Et voici la vérité dans tout ça, parce que je pense que les gens nous suivent beaucoup depuis ce matin. Dès que le gouverneur de la ville que j'ai salué, qui est un homme qui collabore, qui est un ami par ailleurs, m'a parlé de cette initiative du confinement de la ville de plutôt de la commune de la Gombe. Je lui ai dit, nous avons décidé au niveau de l'UNPC, tant au niveau national avec le président Chilundé qu'au niveau de la ville de Kinshasa, de vous accompagner dans cette initiative. Comment nous allons procéder? Nous avons déjà, nous, INPC, le fichier de tous les journalistes de Kinshasa. Nous allons demander aux responsables de chaque média de nous transmettre la liste des médias, ou plutôt des journalistes professionnels qui doivent avoir à la fois leur cadre professionnel, mais également un badge qui est, on va dire, validé par l'UNPC et la police et la l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous sommes tombés d'accord. Nous avons fait la démarche. Nous sommes allés à l'hôtel de ville sur base de liste que nous avons établi. On a publié, ou plutôt imprimé les badges des communs accords. Mais parallèlement à cela, il y a eu de la pression par ceux qui ne sont pas journalistes, ceux qui font les youtubeurs, les gens qui sont sur les laptopeurs, les gens qui tournent un peu en marge de notre profession, sur la ville. Pour dire que, voilà, l'UNPC vend des cartes, ce qui n'est pas vrai. Et le gouverneur a pu changer la stratégie en mettant en place un badge, on va dire, anonyme, uniforme, qui pose aujourd'hui problème. Pas plus que ce matin, je fais le tour avec le responsable de service sécurité en mer, de la police et encore l'hôtel de ville pour dire qu'on doit revenir à la démarche consensuelle pour avoir, et la mer a raison et la police, l'identification de ceux qui sont des vrais journalistes et qui doivent venir à la Gombe en service minimum parce que les magasins sont fermés, les services publics sont au minimum. Je ne vois pas pourquoi on doit avoir une multitude de journalistes qui doivent venir à la Gombe. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler en ce moment. Et donc, j'appelle tout le monde au calme pour que le temps d'harmoniser avec et l'hôtel de ville de Kinshasa et les services de sécurité, qu'on puisse avoir un document consensuel au minimum de ceux qui doivent venir travailler à la Gombe. Il n'est pas demandé à tout le monde de venir à la Gombe. On peut travailler aujourd'hui en télétravail. Il y a l'informatique. C'est tout à fait possible. En Europe, partout dans le monde, ça se fait. Évitons toujours des attroupements inutiles venir au centre-ville inutilement parce que c'est sujet des contagions, sujet aussi des proximités et c'est ça qui pousse cette maladie à se propager.
Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. À très bientôt. Alors on poursuit avec vous, Patient Ligodi, avant de retrouver d'ailleurs notre invité Kasonga Chilundé. Patient Ligodi, vous êtes journaliste également. La question aujourd'hui, tout le monde veut que la communication puisse avoir comme modèle la communication de la France. Mais tout à l'heure, hors micro, vous m'avez dit que nous n'avons pas les mêmes outils de travail aujourd'hui, pas les mêmes moyens.
Oui, merci beaucoup de l'invitation JR, mais également salutations à tous les auditeurs et ainsi qu'à tous ceux-là qui ont été invités. Mais bon, après, ce qu'il faut également dire, c'est que la communication, c'est pas la communication qui va donner des solutions à tous les problèmes du pays. Ça, c'est de un des deux. La communication, c'est un service de support, Et comme c'est dit dans les écoles de communication, la communication ne peut résoudre que des problèmes de la communication. Là, on est là en face d'un problème de gestion, un problème de gouvernance. De cette gouvernance découle une communication catastrophique parce que la gouvernance est également catastrophique. C'est tous les pans de la gouvernance aujourd'hui qui posent problème. On parle de la logistique, on parle des échantillons qui arrivent, qui seraient d'une province qu'on attribuerait à une autre province. On parle de nombre de morts, de localisation de certains cas positifs à des endroits et les gouverneurs disent d'autres choses, ainsi de suite. C'est plutôt un problème de gestion et de gouvernance gouvernance dans son ensemble qui est posée là. Et ensuite, évidemment, il y a, comme on a une gestion calamiteuse, la communication qui en découle également est une communication catastrophique. Quand on parle de pays comme la France, comme les États-Unis, comme les autres, c'est des pays qui s'organisent, qui ont une gouvernance, déjà, on ne va pas dire parfaite, mais qui tient. On a des institutions qui tiennent. On a la rédévabilité des gens qui sont censés donner au public ou encore à leurs administrés une bonne information en fonction des services qui est rendu. Il faut dire que là, on est en face d'un problème de santé publique et la santé publique relève des institutions publiques. Les institutions publiques font ce qu'on appelle la communication publique. Et la communication publique a ses règles. On ne peut pas continuer à gérer un pays avec la communication des crises qui est une communication temporaire.
Merci beaucoup, Pascal Ligodi, d'avoir placé un mot dans cette émission. Et on va conclure cette émission avec vous, Kasonga Chilunde. Et vous êtes président de l'UNPC. Vous avez suivi, en tout cas, ces panels des amis, des compatriotes et des confrères qui ont réfléchi autour de cette question. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui et que c'est important, la collaboration entre les médias et les autorités dans la gestion de cette crise?
Tous ceux qui ont parlé ont raison et ont très bien parlé. Particulièrement mon président urbain de l'UNPC, Kinshasa. Il faut que les autorités n'ont pas d'autre choix que de collaborer avec les structures qui gèrent la profession. Lorsque une autorité se laisse entraîner par des rumeurs ou des fausses accusations qui ne vérifient pas, ça devient un danger pour la société. Il faudra que le gouverneur de la ville nous associe à ce qu'il fait parce qu'il sait que quand ça rate, c'est lui qui est vu dans le viseur et de l'opinion et des autorités et tout le monde n'est pas d'accord pour qu'il réussisse. Mais pour cela, parce que nous avons promis de l'accompagner, il doit nous associer à tout ce qu'il fait. Nous sommes ensemble ses conseillers et lorsqu'il y a des problèmes, nous savons les résoudre ensemble. Imaginez-vous aujourd'hui à Sosimat, un responsable de Kin Bopeto, il se met là-bas pour chasser les journalistes et dire que les macarons que nous avons fabriqués étaient des faux. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et quelqu'un de qui nous peut être, est-ce que vous trouvez ça normal? Donc je pense qu'il faut nous respecter. Il faut nous associer et nous sommes disposés à lui donner tous les conseils possibles. Tout le chemin possible pour que...
Oui, ça c'est au niveau de la ville. Mais au niveau national...
Mais il n'y a pas de différence au niveau national. La communication doit être parfaite à tous les niveaux aussi. Il y a les secrétariats techniques dans chaque province. Il faut que ces secrétariats techniques fassent le même travail avec une communication qui vaille pour que le peuple soit suffisamment et pleinement informé.
Alors, on a l'impression que l'officiel aujourd'hui utilise les canaux qu'il a mis en place, les Mines Santé TV, une chaîne de télévision uniquement du ministère de la Santé, qui, au fait, livre les informations.
Mais ce canal à qui le suit, entre nous, soit dit en passant. Hein? Et là, c'est une fausse, mauvaise communication qui ne peut pas passer. Donner l'information aux canaux qui sont déjà connus et acceptés par la population. Donner l'information à la RTNC, Télé 50, Radio Okapi, Top Congo FM. Voilà les médias où quand, à tout moment, quelqu'un est là issu de formation. Et vous créez un média aujourd'hui pour besoin de la cause parce qu'il y a l'argent. Et puis, qui va suivre? D'abord, moi...
Voilà, je crois que c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission que vous allez suivre pendant ces 14 jours après le journal de midi, donc à 13h, heure de Kinshasa. Donc exceptionnellement, pendant cette période de confinement partiel à Kinshasa, nous avons fait ces petits réaménagements pour tous nos auditeurs. Donc prenez rendez-vous avec nous à partir de 13h jusqu'à 14h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. On se retrouve demain.